Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux.
Oh, that music to my ears.
On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader.
Oh, yes, yes.
Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain.
Well, that's excellent.
Clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise.
You know what? I like that idea.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Tessier sur Clé de voûte. Paul fait probablement partie des 10 products français les plus expérimentés. Après ses études en France, il lance sa première boîte en 98. Dans la foulée, il relance une aventure nommée Virtual DJ qui développe un software pour les DJ utilisé par 70 millions de personnes dans le monde. En 2006, il devient directeur produit chez PayPal et s'envole à San Francisco. Il y reste 9 ans, puis devient VP Product de Symfony. En 2021, il devient CPO de Booster, puis rejoint l'équipe de Gorgias. 2 ans plus tard, il devient président de Superhuman, l'email le plus rapide du monde. Paul vient sur Clé de voûte nous livrer sa méthode step by step pour améliorer la collaboration entre Product Manager et Product Designer, avant de revenir sur les différences de pratiques produits entre la France et les US. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. C'est parti Paul pour cette seconde partie d'épisode. De quoi tu veux nous parler ?
Alors, il y a un sujet qui est vachement important et que j'ai vu à la fois au début de ma carrière dans une boîte comme Virtual DJ et puis aujourd'hui encore très fort chez Superhuman, qui est la collaboration entre la fonction produit et la fonction design.
Trop bien. Comment tu veux aborder cette partie ?
Alors je pense qu'il y a 2 grands thèmes. Le premier, c'est comment est-ce qu'on comprend ensemble le client et ses besoins. Et le deuxième grand thème, qui est, ok, très bien, on a compris le besoin, comment est-ce qu'on définit la meilleure solution possible pour répondre à ce besoin.
Toi, dans tes expériences, tu as vu, peut-être avant qu'on attaque ce plan-là, est-ce que tu as vu des choses, des symptômes un peu récurrents d'une mauvaise collab ou de choses, tu vois, qui sont vraiment à faire, enfin, il faut vraiment faire gaffe, par exemple, à un truc en particulier, un symptôme qui revient tout le temps, une collab qui se fait mal, tu vois?
Ouais, alors j'ai ce que je dis à mes équipes, c'est j'ai 2 red flags qui reviennent assez tout le temps, assez souvent, et que j'essaie de détecter en amont, qui sont les gens ne connaissent pas, ne sont pas capables de résumer le besoin client, ou bien on demande à un product manager et à un designer de parler du besoin client et ils parlent de choses complètement différentes. Ça paraît un peu débile de dire ça. Cependant, ce qui est important et ce que je recherche, c'est un niveau de précision sur qui est le client, quel est son besoin, qui est assez poussé. Et c'est souvent le niveau. C'est souvent quand on commence à pousser la précision qu'on se rend compte qu'il y a des gaps. Donc c'est point 1. Et point 2, c'est quand les product managers vont voir les designers et leur disent quoi faire, leur disent quoi designer précisément. Ça s'appelle du design prescriptif. Et ça, c'est un méga red flag. Donc, quand je regarde les Slack ou les specs et que je vois que, en fait, il y a aucun espace de créativité qui est créé, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vu.
Ça, le design prescriptif, tu l'as beaucoup vu?
Auparavant. Bah oui, ouais. j'ai été coupable de ça 1000 fois.
C'est bon, on sait que tu dis la vérité. Trop bien. Écoute, maintenant qu'on voit un peu mieux comment tu situes le contexte et comment ça se passe dans les boîtes, toi, comment tu ferais, donc en abordant ces 2 points, comment tu ferais dans ce premier point pour faire en sorte que la collab se passe mieux, justement?
Ouais. Alors, juste avant même de rentrer dans le premier point, je pense qu'il y a un principe de base qui est probablement une évidence, mais ça mérite d'être répété, qui est cette notion que dans les équipes de développement, il y a une espèce de taille idéale qui est 5-6 ingénieurs, un product manager, un designer. Le but, les équipes fonctionnent bien quand l'unité entre le product, le design et l'engineering est vraiment très forte. Selon les différentes boîtes, ça s'appelle de façon différente. Chez Superhuman, on appelle ça, on aime beaucoup les jeux vidéo, on appelle ça la triforce. Donc il faut que product, design et engineering prennent les décisions ensemble. Et dans mon rôle, qui est moins proche du produit qu'il ne l'a été, dans mon rôle, en général, les décisions ont besoin d'être explicitement prises par les 3. Et c'est culturellement quelque chose de très, très important à renforcer. Donc, on va parler aujourd'hui essentiellement du produit et du design, mais la symbiose avec engineering est bien évidemment très, très importante.
C'est parti, on attaque. Écoute, on peut débarquer direct sur le premier point.
Donc, Sur la partie comment comprendre le besoin client, je pense que le point fort, c'est de faire essentiellement. Donc ça prend du temps, c'est évidemment du travail. Et ce travail là, même s'il y a des moments où la valence est plus design et la valence est plus où la valence est plus produit, le travail doit être exécuté de façon conjointe ensemble sur l'intégralité du process, de telle sorte que comme c'est le moment où tout le monde apprend et fait sa propre perception interne des besoins du client, cette intégration-là soit faite de façon simultanée. Donc, deux grands points. Un, évidemment, interagir en direct avec les clients, de telle sorte à avoir une vue qui soit à la fois qualitative, donc des histoires, des personnes, si c'est un produit B2C, pouvoir visualiser quelle est la personne, quels sont ses besoins, à quoi ça ressemble sa journée, etc. Et dans le cas du B2B, la personne qui a la valeur finale du produit, comment ça se manifeste dans ses objectifs business, etc. Donc, construire une grande intimité qualitative et aussi quantitative. Donc, on a parlé de différents questionnaires qui peuvent être déployés pour avoir des données qualitatives sur est-ce que ce problème-là est plus important que ce problème-ci, etc. Mais les deux parties sont très importantes. Par exemple, chez Superhuman, donc les product managers, en général, ils font entre 2 et 3 interviews quali par semaine. Il y a des semaines où c'est plus, des semaines où c'est moins, mais en moyenne c'est à peu près ça. Certaines avec des objectifs précis, certaines sans objectifs, tu vas me parler de comment tu collabores. Donc nous on est dans le business de la collaboration et de la productivité, donc quelles sont les choses qui sont dures pour vous, en posant des questions très ouvertes, quelles sont les choses qui sont dures pour vous dans votre journée de travail, etc. Et en quanti, ce qu'on va faire, c'est on va prendre des clients, par exemple, des utilisateurs qui ne sont pas encore clients Superhuman, et comprendre est-ce que leur problème avec les emails, c'est la quantité, c'est les trouver, c'est etc. Et en priorisant certains besoins par rapport à d'autres, en comprenant quels sont les besoins qui sont les plus importants, ça nous permet d'orienter notre décision de roadmap. Donc, un, quanti et quali. Deux, donc quantitatif et qualitatif, pardon. Deux, surtout au début, les interviews doivent être larges et non prescriptives. On va parler de non-prescriptivité plusieurs fois. Mais l'idée, c'est de pouvoir poser des questions comme « Quelles sont vos plus grandes priorités aujourd'hui, par exemple ?» On commence hyper large et ça permet de comprendre comment est-ce que le client voit son propre monde et voit ses propres besoins. Souvent, quand on est obsédé par un problème, par exemple, ces temps-ci, je suis vraiment obsédé par les emails. J'ai l'impression que le monde tourne autour des emails. Poser cette question-là, et quand les product managers posent cette question-là, ça permet de se remettre un peu à sa place. C'est quoi, les emails? C'est pas la plus grosse chose dans ma vie. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont plus importantes. Et ça permet de calibrer les features, mais aussi la façon dont on lance les features. Autre idée de question, quels sont vos plus grands problèmes? Quelles sont vos plus grandes frustrations? Pareil. C'est très large, ça ne dirige pas le client vers un domaine particulier. Celle que je prends très souvent et je m'en sers franchement tout le temps, même quand je suis dans un call pour essayer de vendre Superhuman à des clients, la question que je pose tout le temps, c'est si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez régler n'importe lequel de vos problèmes aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Et en général, ça donne vraiment des signaux super forts sur qu'est-ce qui est important pour un client et comment est-ce que lui-même voit son problème et le comprend. Une fois qu'on commence de façon très large, bien évidemment, l'idée, c'est d'aller de façon très, très précise comprendre comment ce problème se manifeste, quelles sont les solutions alternatives, etc., etc., etc. Donc, c'est le point 1 de la compréhension du problème.
Donc ça, à nouveau, je répète, excuse-moi de te couper, sur la collab, c'est toutes ces questions et ce raisonnement quali-quanti, c'est pas, tu disais le product manager, mais c'est finalement le trio dont tu parlais au début qui doit faire ça. Comment tu le vois d'un point de vue collab, toi?
Donc c'est pas vraiment le trio. Je pense que c'est essentiellement, en gros, je vais prendre un exemple tout bête. Disons que pour une nouvelle idée quelconque, vous voulez parler à une vingtaine de clients ou de prospects. Quand est-ce qu'on a fini les interviews? C'est la méthode que je donne aux product managers et designers, c'est en gros quand tu sais à l'avance ce que la personne va dire, c'est que t'en as fait assez. En général, c'est 10 ou 20. Donc, quand c'est, pour faire 10 ou 20, comme ça, ça peut devenir assez répétitif au bout d'un certain temps, ce qu'on fait en général, c'est la moitié sont faits par les product managers, la moitié sont faits par les designers, les premiers sont faits en double. Et idéalement, sur les 20, disons, il y en a deux où vous faites venir les ingés. Dans certains cas, il y a des ingés très curieux qui sont contents d'en prendre eux-mêmes. Bon, c'est super quand ça a lieu aussi, mais bon, parfois il y a aussi d'autres trucs à faire en parallèle. Donc vraiment partager à 50-50, parce que la façon dont un product manager voit le monde est très différente de la façon dont un designer voit le monde. Et l'innovation, elle a lieu quand on compare les deux et quand il y a des idées qui émergent dans cette rencontre-là. Et donc c'est pour ça que c'est fondamental de poser des questions très larges ensemble. Parce que le cadre de référence devient très précis et en l'établissant, c'est là que les idées d'innovation émergent.
Ok, donc pour revenir à la question centrale qui était comment tu fais pour que ça collabore bien entre le produit et le design, le premier truc, c'est quand tu bosses sur le problème, il faut bosser ensemble, à la fois au début en commençant en duo sur les interviews, si je comprends bien, et ensuite chacun de son côté va mener son petit chemin, son petit bonhomme de chemin en menant les interviews soi-même. Et tu disais qu'il y a ce fameux ratio, hein, tu as donné les chiffres du nombre d'interviews à faire, du nombre d'interviews que chacun doit faire et le nombre d'interviews qu'un développeur ou un engineering manager doit faire également en fin de round. Quoi.
Exactement.
Ok, hyper clair. Donc ça, c'est pour le problème. Comment tu vois la suite?
Avant de passer à la suite, il y a pour conclure la partie problème, c'est assez classique. On parle souvent de modèles en double diamant. Donc, le diamant 1, c'est définir le problème. Le diamant 2, c'est définir la solution. Donc, il y a une phase de divergence où on génère plein d'idées. On se dit, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, etc. C'est super. Et puis, il y a une deuxième phase qui est, OK, très bien, sur les 25 idées qui nous paraissent bien, on va fondamentalement en faire une, voire deux. Donc, c'est là qu'il y a un travail de convergence qui est très important. Moi, ce que je recommande, et c'est si vous avez déjà écouté l'épisode avec mon cher ami Rémi Guyot, il vous parlera du first use case. Donc ce que je recommande, c'est vraiment d'être obsessif sur très bien, il y a 25 problèmes, c'est quoi le plus important maintenant? Et tout le reste, et donc il faut les ignorer. Ce travail d'en choisir un, c'est là que c'est en tout cas une grosse partie du processus créatif a lieu, c'est dans ce choix-là. Donc, avant de passer à « OK, quelle est la solution ?», être vraiment d'accord sur le problème, c'est fondamental. Donc, je peux en parler plus, mais je préférais, vu le temps qu'on a, passer au deuxième sujet. Mais donc, dans cette partie 1, comprendre le problème et se mettre d'accord sur le plus gros à résoudre.
Hyper clair. Eh bien, écoute, maintenant qu'on sort du problème, j'imagine qu'on va commencer à parler solutions.
Ouais, évidemment. évidemment, on parle de solutions quand on parle des problèmes un peu, mais il faut mentalement essayer de se contraindre à pas trop le faire pour pas commencer à devenir amoureux d'une solution qui en fait est pas la bonne solution, ou en tout cas qui est la solution du mauvais problème. Donc certes, on parle un peu de solutions avant, mais c'est intéressant mentalement de séparer les deux étapes. Donc sur la partie solution. Donc la clé, on en a déjà parlé quand on parlait des dangers à éviter, c'est en tant que product manager de se forcer à être non prescriptif, c'est-à-dire de parler du problème, de parler du besoin, mais pas de parler de à quoi ça doit ressembler le design. Alors évidemment, ça arrive à un moment, mais au début, en tout cas, des choses du style « Ah ça, j'aime pas ça, je préférais bouger le bouton. Chez Superhuman, notre client type, on l'appelle Nicole. Donc, des choses du style « Ouais, je pense que Nicole, elle trouvera pas ça suffisamment intuitif. » Ce genre de critiques-là, il faut plutôt les garder pour vers la fin du process, mais plutôt pousser, ramener toujours au problème. De telle sorte que ça laisse un espace maximum pour l'équipe design ou pour le designer pour être créatif et pour avoir un vrai espace de contribution.
C'est intéressant ce que tu dis. Quelle partie, selon toi, du coup, se fait à deux, donc PM designer, où là, c'est ce que tu disais, il faut éviter que le PM, lui, donne un peu un jugement, son opinion, soit prescriptif sur le design et le prototype en lui-même. Et quelle partie, du coup, est-ce que le designer, selon toi, doit mener en autonomie?
Alors, il y a, il y a quand même la production d'un certain nombre d'artefacts, hein, donc des boards Figma ou équivalents. Ça, évidemment, c'est le domaine du designer. Il y a plusieurs niveaux de fidélité, hein, dans ces artefacts-là. Pour aller vite, alors, je vais juste prendre un tout petit détour sur ce sujet-là, qui est, je pense que c'est important et même fondamental pour les product managers, surtout pour les boîtes early stage, de s'informer sur comment ça marche le design. Quel est le process design idéal? Il y a plein de blog posts sur le sujet, hein, on ne va pas en parler trop. Mais de la même façon que les product managers deviennent assez bons en techno, voilà comment fonctionne mon back-end, voilà l'API, machin. Bah, en fait, c'est intéressant de développer le même niveau de compréhension sur le process design, parce que des designers très seniors, très forts, en fait, eux, ils connaissent le process et ils vont vous dire voilà comment ça marche, voilà les étapes et tout. T'as plus qu'à te plugger si elle est là, c'est très facile. Les designers plus juniors, surtout les designers juniors qui sont en pair avec des product managers juniors, là, il y a deux risques, qui est soit d'être trop timide, et comment tu veux le faire, je sais pas, est-ce que tu veux pas le faire comme si, etc. Ou bien l'autre opposé, qui est, j'ai lu dans tel blog post qu'il fallait faire comme si, donc je vais être rigide et dogmatique, et on va faire de cette façon-là. Les deux sont deux extrêmes un peu à éviter. Et donc, se renseigner en amont sur les différentes formes de process, à quoi ressemblent les délivrables, comment interagir dessus, ça permet d'éviter les écueils quand on ne sait pas encore trop comment collaborer ensemble. Donc, ceci étant dit, je pense que la clé, c'est l'itération. C'est-à-dire, et les designers seniors et expérimentés le font naturellement, ils partagent leurs idées à un faible niveau de granularité et de définition dès le début, presque. Dès que le problème est à peu près défini, genre le lendemain, il y a quelques explorations, des choses sur lesquelles on peut commencer à réagir. Et à partir de là, il y a un certain nombre de pistes créatives qui commencent à émerger. Et ce que le product manager peut faire à ce moment-là, c'est aider à décider, bah, entre ces 5 pistes créatives-là, voilà celles qu'on peut tester avec des clients, celles sur lesquelles j'ai déjà des données qui me permettent de dire, OK, cette piste-là a l'air plus pertinente que telle autre, etc. Et on itère. Donc le premier niveau très high level, hein, imaginez un croquis, et puis de plus en plus détaillé, et à chaque étape, le job du product manager, c'est d'aider à décider parmi les différentes directions possibles laquelle correspond le plus aux besoins clients, et en fonction décider, OK, très bien, là on peut décider rapidement parce que on a déjà des data clients qui nous permettent de faire la décision, ou bien dans ce cas-là allons montrer nos explorations à des clients, allons faire une research particulière pour dessiner entre les différentes options, etc. Donc le danger, c'est et c'est quelque chose que les designers en début de carrière peuvent être tentés de faire, c'est de vouloir avoir un truc parfait et de tout faire tout seul, et de faire ce que j'appelle un tada, qui est je rentre dans un trou noir pendant 2 semaines, et à la fin j'ai un truc super détaillé où j'ai pris toutes les décisions moi-même. Et le gros danger, c'est à ce moment-là, bah ouais, très bien, c'est un truc super, mais en fait le deuxième virage, on a pris le mauvais, et il faut refaire une semaine et demie de travail.
Tu disais à l'instant, peut-être juste avant de compléter, qu'il faut effectivement faire des cycles itératifs assez courts. Est-ce que tu as observé, toi, une bonne pratique en termes de rythme, tu vois, de cycle itératif et peut-être de rituel à mettre en place, à nouveau entre PM et product designer? Je ne parle pas du reste, ouais. Là.
Ouais, alors là, en fait, la vraie réponse, c'est que ça dépend. Quand on est sur des produits qui sont très 0-to-1, donc très early stage, où le domaine du besoin client est assez bien défini, mais la solution, il y a genre 5 options différentes qui n'ont vraiment rien à voir entre elles, on ne sait pas trop quoi faire. Par exemple, l'exemple que je peux donner, c'est chez Superhuman, quand on a commencé nos projets d'AI. Super, ChatGPT existe, on peut faire 300 000 trucs avec. Lequel on prend? Enfin, on ne sait pas. Donc là, ce qu'on a fait, c'est... bon, OK, on avait un designer qui gérait le truc, qui est super fort. Donc en une journée, il nous a dit, OK, voilà cinq directions possibles sur lesquelles on peut aller. Donc on a eu ça très, très vite. Mais décider entre ces cinq-là, entre guillemets, en chambre, c'était presque pas possible. Enfin, chacun avait des opinions différentes. Il fallait vraiment requalifier ça avec à la fois la faisabilité technique et les besoins clients. Et donc, le cycle de validation lui-même a pris, tu vois, 3-4 jours. Sur d'autres sujets où les sujets sont très bien connus, le domaine du problème est très, très bien connu. On peut faire des itérations tous les jours presque. Ça, c'est 0 to 1. Quand c'est des produits qui sont plus en mode itératif, par exemple, pendant quelques années, j'étais responsable du flow d'onboarding des business chez PayPal. Donc c'est des dizaines de milliers de clients qui sign up tous les jours. Là-dessus, on avait des A/B tests qui tournaient, et en général, à la limite, il y a même pas besoin d'itérer trop entre product manager et designer, peut-être une fois, mais le plus important, c'est il faut vite shipper une branche d'expérimentation. Si les données sont suffisamment importantes, on peut avoir du feedback en 3-4 jours, et puis faire l'itération d'après, juste après. Donc, les produits matures, on fait des itérations plus lentes, où on a plus de data sur les clients. Les produits plus 0 to 1, je recommande des itérations très rapides.
Donc, ça dépend vraiment du stade de maturité du produit, et j'imagine de l'entreprise aussi, parce que tu peux avoir du monoproduit comme du multiproduit, tu vas forcément penser un peu différemment, quoi. Et de comment tu es équipé également, quoi. Ok, donc désolé pour cette digression, mais je pense qu'elle était intéressante. je te propose qu'on reprenne du coup le cours de ce que tu disais. Tu étais sur la partie TADA, tu sais, les fameux ouais. designers qui passent, qui font un tunnel et qui te sortent un truc censé faire cet effet TADA, qui marche pas beaucoup apparemment.
Ouais. Marche jamais. Ça se passe jamais bien.
Comment tu vois la suite du coup là sur cette partie solution? Est-ce que tu as autre chose à ajouter?
Ouais, donc on a parlé de la fréquence d'itération qui est très important, avec un niveau de définition de plus en plus élevé. Il y a quelque chose d'assez contre-intuitif que je pense qu'il est bon de rappeler. La façon dont je le décris à mes équipes, c'est on a l'impression que 90% de la valeur d'un produit va être délivrée le jour en ship. GA, hier, on a... General Availability, GA, pardon, en anglais. Hier, on a lancé le résumé d'email dans Superhuman. Donc, c'était notre journée de GA. Ça fait un mois et demi que les product managers et designers, ils itèrent avec des clients en chambre. Mais néanmoins, voilà, il y a quand même un moment où on lance et tout le monde l'a. Et c'est très facile le jour du lancement de se dire, ça y est, les clients vont avoir 90% de la valeur qu'on a imaginée. C'est pas vrai. La vraie valeur, dans ma tête, c'est à peu près 50% le jour où on ship. Et puis, il y a un travail d'itération après le lancement qui va délivrer presque autant de valeur que l'itération avant le lancement. Alors, il est très différent parce que en général, il y a beaucoup de travail d'engineering avant le lancement. C'est là qu'on construit les gros éléments de tech, alors que la partie après le lancement, c'est plus de l'optimisation qui est beaucoup moins intense en engineering. Mais c'est néanmoins tout aussi intense d'un point de vue product design. Donc, les product managers et designers qui passent au sujet d'après le lendemain du lancement, en général, c'est assez dangereux parce qu'en fait, il y a plein de valeurs qui n'est pas vraiment délivrée. Donc, je recommande d'itérer la façon intuitive jusqu'au jour du lancement, mais de continuer à itérer pendant quelques semaines après pour justement que le client final ait la valeur maximale de l'investissement technologique qui a été fait. Ouais, donc pour finir, deux choses importante qu'il est toujours bon de rappeler. La première, c'est que au travers de tout ce processus de trouver le problème client jusqu'à shipper une solution, au début, c'est normal de commencer avec des données plutôt quali, mais au travers de ce processus, les données deviennent de plus en plus quanti. Et donc, les product managers comme les designers devraient être force de proposition sur quelles sont les données dont je vais avoir besoin pour itérer, notamment itérer après le lancement, de telle sorte que les données soient déjà disponibles au moment où on ship et qu'on n'ait pas besoin de dire « Oh, c'est super, je viens de shipper un truc. » Qu'est-ce que font les clients? Je sais pas. Je vais passer une semaine et demie à rajouter les bonnes mesures partout. On perd une vraie dynamique quand c'est le cas. Donc c'est vraiment important d'y penser. Deuxièmement, l'ouverture à la surprise. On se fait plein d'idées sur les besoins du client et qu'est-ce qui va se passer quand on ship ou quand avec tel prototype. Ce que j'ai constaté, c'est qu'en général, les designers sont meilleurs à écouter le client et à se laisser et à réaliser que une hypothèse qu'on avait est la mauvaise et qu'en fait il faut changer. Je pense que c'est quelque chose à garder à l'esprit vraiment tout du long. Troisième chose, on a parlé beaucoup de données. Souvent, les designers sont moins à l'aise que les product managers avec les données. Le job des product managers, c'est justement de d'emmener les designers dans la compréhension profonde de qu'est-ce que les données disent du comportement des clients. Parce que ça rend les designers bien meilleurs à faire leur job, même si c'est quelque chose qui est moins naturel pour eux.
Concrètement, tu recommandes de faire des sessions ou des micro-sessions pour que les PM forment un petit peu les designers, voire juste
alors,
les accompagnent.
Alors, plutôt des micro-sessions. Ouais. Parce que regarder des lignes de SQL, c'est pas forcément le truc le plus excitant. Ouais. Mais en revanche, passer 5 minutes à expliquer, regarde cette métrique-là, elle veut dire ci, elle veut dire ça, c'est comme ça qu'on l'interprète, à petite dose, ça fait une énorme différence sur la qualité du design itératif notamment.
Ce que je comprends, c'est qu'il faut que chacun comprenne bien son rôle et sache bien quel est son propre périmètre. Et ensuite, connaissent également le périmètre de l'autre. Et ensuite, en fait, il y a un peu cette intelligence qui se crée de ça, je sais que la personne, par exemple, je suis PM, le designer, je sais qu'il est un peu plus faible là-dessus parce que c'est pas son job, en fait. Donc moi, je vais devoir lui montrer ce que c'est que la data ou autre. Et le designer, à son tour, également, pareil, doit connaître son rôle, sait exactement quand il doit commencer à communiquer au PM et doit l'armer sur des sujets que le PM connaît moins. C'est ça?
Ouais, exactement. C'est comme deux faces d'une pièce de puzzle. La vue du client et la vue du comment le produit répond aux besoins du client. Les product managers et les designers ont vraiment des vues complémentaires de la chose, et c'est en développant l'interface entre les deux que on arrive à développer des produits incroyables.
Trop bien. Bah, écoute, pour boucler cette partie, est-ce que tu as un truc à ajouter ou est-ce qu'on a tout fait?
Je crois qu'on a tout fait, mais pour récapituler pour tout le monde.
Ah, j'aime bien ça.
Toujours revenir au client. Toujours. 2, laisser de l'espace. Super important. 3, itérer. 4, la data, s'il y en a des milliers, mais prenez un seul chiffre et focalisez sur celui-là tout le temps. Et 5, rappelez-vous que même s'il y a de la métrique, même s'il y a même si c'est dur, à la fin, le travail de créativité qui a lieu entre les designers et les product managers, c'est là que la magie a lieu et c'est là qu'on s'amuse le plus. Donc, rappelez-vous de prendre le temps de vous marrer aussi.
Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu.
I have everything here.
Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
Oh, yes, yes.
Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
Darling, this trip's an inspiration.
Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite.
I'm so happy.